Jeudi dernier, il y avait la grande finale de la Coupe des Quatre Nations.
OK, oui.
Match excitant entre le Canada et les États-Unis qui porte fièrement la couronne du hockey au monde. Wow! Soirée remplie d'émotions. Hier, même combat. Premier débat entre les candidats à la chefferie du Parti libéral du Canada et tout ça en français. On va en jaser avec Marc-André Leclerc, qui est chroniqueur politique pour le Journal de Québec. Il est auteur, analyste aussi. Marc-André, bon matin.
Bon matin.
Marc-André, est-ce que tu t'es remis de tes émotions d'hier, ce premier débat entre les candidats à la chefferie du Parti libéral du Canada?
Ben, je l'ai tout écouté.
Wow!
Ben, je pense qu'on n'est pas plusieurs. Je pense pas qu'on est plusieurs au Québec, mais bon. Quand on analyse la politique, on commence, on n'a comme pas le choix d'écouter ça du début à la fin, et j'avais hâte que ça finisse.
Non, mais okay, à ce point-là, c'est en français, qui est évidemment pas la langue première des quatre candidats qu'on a eu dans le débat hier. Peut-être commencer avec Mark Carney, qui a un français laborieux. Est-ce que ça lui a fait mal, ce débat, tu penses, là, dans l'opinion populaire, ce débat-là en français hier?
Oui et non. Okay. Je m'explique. Oui, ça y a fait. Non, ça y a pas fait mal dans le terme de la course au Parti libéral le 9 mars, qui est la première étape pour lui. Ouais. Tu sais, ça y a pas fait mal parce qu'il est pas vraiment non plus un autre candidat qui a super bien performé ou il a même pas été attaqué. Fait que pour lui, c'est une espèce de match nul, de confusion dans la langue de Molière, tout ça. Quand t'es le meneur, ça te sert dans une course comme celle-là. Où ça lui fait mal, c'est dans sa crédibilité en vue d'une campagne général.
Ouais.
Clairement, il n'est pas capable de débattre en français. Ses idées étaient extrêmement confuses. Même au-delà du fond et de la forme, on se demande un peu c'est quoi sa gymnastique financière pour ses histoires d'équilibre de budget. Il a fait un lapsus sur le Hamas, qu'on est d'accord, on est d'accord avec le Hamas. Heureusement pour lui, Chrystia Freeland l'a sauvé, est allé le corriger. Dans un vrai débat, ça serait pas arrivé. Et je vois mal, on voit beaucoup M. Carney dans les sondages actuellement, c'est la saveur du mois, tout ça, mais hier, il n'a pas été à la hauteur des attentes. Là. Ce gars-là, il est supposé, tu sais, de changer l'eau en vin. Là. Ouais. Tellement qu'il nous est présenté, puis comment les gens voient en lui chez les libéraux, le sauveur, puis la façon de conserver le pouvoir avec un CV quand même impressionnant. Mais hier, il n'a pas été à la hauteur. Ce soir, ça va être en anglais. Peut-être que ça va être différent. Mais clairement, il s'est fait mal là, au Québec pour l'élection générale. Parce que, bon, qui a écouté le débat hier, c'est une chose. Mais ce matin, dans tous les médias, on en jase. Dans tous les médias, on passe des clips de la soirée. Et M. Carney ne paraît pas bien. Là.
Marc-André, hier, ça ne s'est pas du tout chicané au débat, même non. Que j'ai appelé ça une bonne vieille conversation de deux heures de quatre libéraux. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est parce que, justement, on croit tellement en Mark Carney, puis on croit tellement que les libéraux peuvent gagner la prochaine élection avec Mark Carney, qu'on a décidé, justement, de prôner l'unité?
Exactement. Donc, les quatre personnes hier qui étaient en débat savent très bien que lorsqu'il y a une chicane dans une formation politique, c'est extrêmement rare que tu performes bien dans les sondages. Donc, ils ont décidé, les trois autres candidats, Chrystia Freeland, Carina Gourde et Frank Bayliss, nous ont comme démontré qu'ils savent très bien que M. Carney va remporter la course le 9 mars. Donc, ils ont été extrêmement gentils avec lui parce que sur plusieurs fronts, là, il aurait pu être attaqué. Tu sais, ses positions sur les éléodiques sont pas claires à M. Carney. Sa position sur comment il veut équilibrer le budget, c'est pas clair également. Le seul moment où on a vu vraiment les candidats un peu énergiques, c'est quand c'est des questions qui touchaient plus le Québec, là, la loi 96 sur la langue française, la loi 21 sur la laïcité. Là, vraiment, clairement, il était très, très, très excité et en prenant des positions qui sont contre les positions qui ont été prises par l'Assemblée nationale au cours des dernières années. Donc, hier, on a décidé de laisser passer, d'être gentil. Puis, pour exemple, Mme Freeland, elle, qui sait très bien que sa campagne s'en va nulle part, ben, elle veut être dans les bonnes grâces de M. Carney. Elle veut s'assurer d'avoir une place au soleil au Conseil des ministres par la suite. Parce que ce qui est intéressant dans la technicalité des choses, c'est qu'après le 9 mars, M. Trudeau, après le 9 mars, il faut qu'il dise « je démissionne » officiellement. Et après ça, M. Carney va être assermenté, probablement, s'il remporte le 9 mars. Là, mais dans ce cas-ci, de figure-là qui remporte le 9. Mais par la suite, M. Carney va être assermenté premier ministre du Canada. Et de facto, il n'a pas le choix de former un conseil des ministres. Ouais. Il peut prendre les mêmes ministres et les renommer au même endroit, mais il n'a pas le choix de les assermenter à nouveau. Tous les employés politiques, à partir du moment où M. Trudeau démissionne, sont techniquement renvoyés. Il faut toutes les réembaucher. Donc, Mme Freeland, elle, sait très bien ça. Fait qu'elle veut s'assurer que M. Carney, dans l'éventualité où il n'y aura comme pas le choix, même s'il déclenche une élection, d'avoir un conseil des ministres, et elle veut revenir, là, bien sûr, au sein des saints.
Hey, Marc-André, est-ce que ça pourrait brasser un petit peu plus ce soir en anglais ou faut pas s'attendre à ça?
Ça va brasser plus dans le sens que ça devrait être plus dynamique. Là. Et pour M. Carney, il n'y a pas le choix. Là, hier, il faisait très comptable, beige. C'est sûr que les libéraux ont été habitués dans le passé à nous présenter, surtout un chef comme Justin Trudeau, très showman, énergique, campaigner, un bon orateur. C'est comme ça qu'ils ont remporté leurs dernières élections. Là, M. Carney, on peut dire hier soir, c'est en français, c'était pas dans sa langue, plus difficile de s'exprimer. Mais là, il va falloir qu'il nous montre également qu'il est capable de pas nécessairement débattre puis de commencer à puncher tous ses adversaires sur la scène ce soir, mais nous montrer qu'il a une vision pour le Canada, qu'il est la meilleure personne pour gouverner le Canada dans un moment d'incertitude. Parce que si on prend juste en français, là, prenez M. Carney hier soir devant Yves-François Blanchet et Pierre Poilievre, et sa campagne est finie. On peut pas imaginer M. Carney avec cette attitude-là, avec ce français-là, avec le fait de pas être capable de s'exprimer devant deux autres chefs qui sont capables de parler en français comme M. Blanchet et M. Poilievre. Là. Fait que, si ça avait été le face-à-face à TVA hier soir, M. Carney, sa campagne au Québec était terminée. Là.
Une course à la chefferie, souvent, c'est l'occasion pour un parti de faire parler de lui. Quand les débats sont poches, comme ça a été poche hier, puis là, ça va peut-être être mieux ce soir en anglais, est-ce qu'en bout de ligne, ça peut profiter plus, par exemple, aux conservateurs de dire « Vous voyez, c'est encore la même gang, c'est encore la gang à Trudeau. » Est-ce que c'est ça qui arrive présentement? C'est-tu mauvais pour les libéraux, les débats poches comme on a eu hier?
Oui, c'est toujours un risque pour une formation politique dans une course à la chefferie où tu arrives, c'est une vitrine. Là. Hier, là, de 20h à 22h, toutes les chaînes d'information continue ont présenté là, le débat. Là. C'est une vitrine. Et après ça, là, rendu à 22h, peu importe le poste, en français, en anglais, on revenait sur le débat, on a présenté les points de presse, on en parle ce matin dans les médias. Fait que c'est sûr que c'est une vitrine. Ça coûte extrêmement cher à produire ce débat-là. Fait que c'est une occasion, justement, de montrer aux électeurs qu'est-ce que ton parti, tes candidats ont dans le ventre. Hier, c'est en français, du moins, c'est une occasion qui est manquée là, pour les libéraux là, de montrer. Puis c'est sûr qu'il y a la forme, c'est le français, le style de chacun. Mais sur le fond, les quatre personnes hier soir étaient d'accord sur tout, ou presque, à part une ou deux exceptions. Et est-ce qu'on s'est vraiment détaché de l'héritage de Justin Trudeau? Pas vraiment. Mme Freeland nous disait même que les déficits, ça allait bien, puis tout ça, puis la situation financière du Canada est excellente. Elle n'a pas trop le choix, ancienne ministre des Finances. Et même M. Carney, qui veut se présenter comme l'outsider, le gars qui n'était pas là, le gars qui ramène une image nouvelle, quand tu prends ses idées une par une, ou ce que dit hier, il est pareil comme les trois autres qui étaient sur la scène, qui ne sont pas à des années-lumière de qu'est-ce que M. Trudeau pousse présentement comme agenda. Fait que c'est sûr que c'est ça, moi, tu sais, au-delà de dire, M. Carney a fait des erreurs, il a fait une bourse sur le Hamas, il était chanceux, Mme Freeland l'a repris, tout ça, mais sur le fond, sur les idées, est-ce qu'ils ont vraiment, tu sais, quand on parle de tout ce qui se passe avec Donald Trump, ce qu'ils ont mis de l'avant hier, là, c'est pas épatant, là, fait qu'il faut se le dire. Fait que c'est sûr que c'est une occasion manquée pour eux de rayonner dans le cadre d'un moment où tous les yeux du Québec, hier, sont en français, des Canadiens français hors Québec et de l'ensemble également, même les anglophones regardent ça. Parce que dans un parti politique, là, à l'aube d'une élection générale, là, ce qui est très important et ce qui stresse souvent les députés des candidats d'une formation politique, c'est de savoir comment le chef, qui surtout quand il n'est pas du Québec, comment il va performer au Québec. Mm-hmm. Et je peux vous dire ce matin, pour déjà avoir échangé avec quelques libéraux, sont pas épatés de la performance de M. Carney, fait qu'il y a un stress dans le camp libéral.
Donc, tous les députés, justement, qui ont donné leur approbation à Mark Carney au Québec à l'heure actuelle ont peut-être certaines craintes?
Oui. Oui, mais c'est certain. Si t'es Mélanie Joly, si t'es François-Philippe Champagne, deux personnes qui sont bien en vue au Québec, puis là, tu vois ton poulain sous-performer comme ça, en français, c'est sûr que c'est inquiétant.
Marc-André, tu as parlé de Donald Trump, puis justement, je veux t'amener sur ce sujet-là, parce que hier, à l'ONU, les États-Unis se sont associés à la Russie lors d'un vote pour faire en sorte que la Russie ne serait pas condamnée pour son attaque de l'Ukraine et on laisserait sans protection les, je vais les appeler les anciennes frontières de l'Ukraine, parce que là, il y a des territoires qui ont été conquis par les Russes. Comment interpréter ce vote-là des États-Unis?
Ben, c'est clair que les États-Unis, avec les propos de M. Trump dans les derniers jours, sont en train de changer un peu la géopolitique. Là. Fait, dans le fond, nous, ici, le Canada, on est rendu, entre guillemets, des ennemis, puis le Mexique, puis l'Europe aussi, tandis que M. Trump veut faire des affaires avec la Russie et la Chine. Fait qu'on est vraiment en train de changer les paradigmes présentement. Certains diront, puis ça, c'est la façon que les États-Unis se défendent sur la motion d'hier dont tu fais mention, c'est par rapport au fait que dans la motion, on disait qu'on allait revenir là, tu sais, au territoire initial de l'Ukraine. Là. Chose que tous les experts s'entendent pour dire que ça n'arrivera pas, là, qu'on ne va pas revenir à l'ancienne, entre guillemets, à l'ancienne carte. Mais clairement, il y a du stress. Là, et on l'a vu hier avec la visite d'Emmanuel Macron là, du côté de la Maison-Blanche. Où M. Macron a quand même eu du front, parce qu'il a quand même corrigé le M. Trump en assis là, dans son bureau, dans le bureau ovale, avec plein de gens autour d'eux, dont J.D. Vance, Marco Rubio, également des diplomates français. Puis il a quand même corrigé sur le financement, parce que M. Trump laissait sous-entendre que l'Europe allait être remboursée. Non, ils ont payé, puis on a payé 60% de la facture. Chapeau, M. Macron, ça prend un bon Québécois, ça prend du gars pour être assis à côté de Donald Trump et d'aller le corriger comme ça devant les médias, devant la planète. Mais on sent un stress du côté de l'Europe. Puis on peut les comprendre aussi. Tu veux pas que le dossier se règle en Ukraine et que l'Europe et l'Ukraine ne soient pas partie prenante. Parce que quand on écoute M. Trump, c'est comme si on veut régler le dossier avec la Russie. Puis après ça, on va vous dire comment on va arranger ça. C'est sûr qu'on peut comprendre le stress là, parmi les pays européens. Là.
D'ailleurs, Marc-André, je voulais te lancer sur Emmanuel Macron, d'ailleurs. Justement, on se demande qui à l'international peut avoir un peu d'influence sur Donald Trump ou y tenir tête. Est-ce qu'Emmanuel Macron, c'est une de ces personnes-là?
Je pense que oui. Surtout après la journée d'hier, il est capable. On sait qu'il y a quand même une certaine... T'sais, autant dans le bureau ovale, autant en point de presse par la suite, on sent qu'il y a quand même un certain respect. Là. M. Trump a quand même un certain respect pour M. Macron. Malgré qu'on peut être surpris de se faire qu'il ait corrigé comme ça devant tout le monde, probablement c'est quelque chose que M. Trump, dans sa façon de voir les choses, il doit pas haïr ça non plus. Là, ouais. Quelqu'un qui est capable de se tenir debout. Et ça fait vraiment, si on fait un parallèle avec le débat d'hier, de voir dans la même journée M. Macron être assis à côté de M. Trump, le corriger, tandis qu'au débat hier, il y a des candidats libéraux qui disaient que eux, ils n'allaient jamais aller négocier ou rencontrer M. Trump. T'sais, il y a comme une dichotomie. Là. À un moment donné, ici au Canada, il faut falloir peut-être arrêter d'avoir peur, là, puis maintenant, on n'aura pas le choix de négocier, d'aller parler avec M. Trump. Là. C'est pas vrai qu'on peut même, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, M. Trump, c'est pas vrai qu'on peut faire l'économie de pas le rencontrer ou de pas s'asseoir avec lui. Là.
En terminant, Marc-André, quelles sont les véritables chances de voir, après ce conflit-là avec l'Ukraine, la Russie tenter de conquérir d'autres pays là, qui sont à proximité de sa frontière?
Ben, c'est certain que ça va dépendre de la façon que le conflit va se terminer. Ce qui est clair pour la Russie, ne va pas voir l'Ukraine là être accueillie par les pays de l'OTAN, de faire partie de l'OTAN. Ça dérange beaucoup Vladimir Poutine. Et c'est ça, je pense qu'il faut espérer. Et c'est ce que Emmanuel Macron a répété hier. Il l'a fait de façon très habile. La fin du conflit rapidement. Pour s'assurer justement que ça ne déborde pas, là, qu'on n'aille pas dans les autres pays limitrophes à l'Ukraine et qu'on puisse, c'est ces trois années d'horreur, on s'entend là-dessus, mais que ça se termine là, rapidement, si on peut dire que c'est rapide après 3 ans, là, toutes les choses étant relatives. Mais je pense justement là, que l'Europe voit l'opportunité présentement qu'on mette fin à ça pour que ça n'en reste là, que l'Ukraine et la Russie s'entendent, qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait une paix à long terme et que l'Europe se porte même garante justement de surveiller ce qui va se passer. Mais clairement, qu'on le veuille ou pas, clairement, ce qu'on voit dans la géopolitique actuelle, cette solution-là en Ukraine va passer par l'implication de Donald Trump, là. Fait que c'est clairement ça qui se dessine présentement. Et maintenant, ça va être de voir comment ça va se faire et comment M. Trump peut amener M. Poutine à la table et quelles solutions qu'on va amener. On a vu que Zelensky est même prêt, lui, à se tasser. Mm-hmm. Parce que c'est sûr que ça devient, après 3 ans de guerre personnelle, il est prêt à se tasser. Est-ce que c'est quelque chose qui peut accélérer le processus d'une entente? Les prochains jours vont être quand même assez importants. On a 3 ans. Là, on n'a comme pas le choix de vraiment passer à autre chose. Parce qu'à chaque fois, on dit que ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Là, est-ce que le fruit est mûr pour vraiment une entente qui va satisfaire toutes les parties? D'après moi, d'ici quelques semaines, on va être fixé.
Marc-André Leclerc est chroniqueur, analyste politique. Marc-André, merci infiniment pour la jasette ce matin. Et je te souhaite, cher ami, bon débat ce soir.
Merci. Bon mardi. Bye-bye.
Salut, Marc-André. Marc-André. Toujours le fun de jaser.
Il était bon,
politique.
Il a taffé jusqu'à la fin.
Barouette. Mais quand il dit, il ajoute aussi, là, mm-hmm. Ben, c'est un peu notre job quand on analyse la politique. Ouais. Quand t'as pas le choix, là.
Exactement.
Tu taffes jusqu'à la fin de ce calvaire-là d'un débat en français. Là.
Oui. J'ai envie de penser qu'Emmanuel Macron va avoir une meilleure réputation dans l'Europe entière qu'en France. T'sais, son passage en France est très mitigé. La droite de Le Pen, de Marie Le Pen, qui a pris justement du galon par rapport aux politiques d'Emmanuel Macron. Mais lorsqu'il se positionne dans son rôle de président de l'Union européenne, là, on dirait que c'est là qu'il redevient le Macron qui mord, t'sais. Macron qui est prêt à défendre tout le monde puis à aller jusqu'au bout de ses idées. Puis c'est ce Macron-là qu'on a vu hier à la Maison-Blanche.
À suivre pour ce qui se passe avec, oui, Donald Trump, oui, ce qui se passe en Russie, en Ukraine, et oui, le débat en anglais pour la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Ce soir, il est 7h41, on va faire une pause publicitaire à Rage Against le matin. Ensuite, le segment « C'est quoi les chances de la semaine et on vous gâte avec une paire de passeports pour le festival. Rich.